pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau.
Dans ce village de l'eau, nous allons essayer de créer des solidarités. Il est important plus que jamais de nous mettre en réseau, de nous parler, de créer des liens entre nous. Et les conférences, tables rondes, formations vont être l'occasion de partager nos expériences, de nous mettre en lien et d'essayer de créer un réseau fort pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Nova Saran, et soyons unis.
Nova Saran.
Attention, fun fact, c'est pas parce qu'on est dans un milieu militant de gauche qu'il ne se passe rien. On est une communauté, on est ensemble et on ne va pas externaliser la question du soin, mais bien la prendre en charge collectivement. L'idée, c'est qu'on fasse gaffe à nous, qu'on fasse gaffe à nos potes, qu'on fasse gaffe à nos comportements et qu'on fasse en sorte que les choses se passent bien.
Prendre soin. Prendre soin des unes, des uns, des autres. Prendre soin de tous, prendre soin de soi, c'est prendre soin de la communauté, du collectif, de la lutte. Et le prendre soin, le care, l'attention et le respect portés à l'autre et inversement, c'est l'un des leitmotivs marquants du village de l'eau de juillet 2024, et a fortiori quand on campe et qu'on vit ensemble à 6000, 8000, jusqu'à 15000 personnes. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue au village de l'eau accueilli par la commune de Mel, événement officiellement porté par Sud Solidaire et Attaque, et géré sur place par une multitude de collectifs dont Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre. Des milliers d'opposantes et d'opposants aux méga-bassines, symbole du capitalisme mortifère. Mais des milliers de militantes et militants appartenant à une kyrielle de collectifs, mouvements, tribus, parfois très éloignées les unes des uns. Personnes masquées ou pas, féministes, zadistes, anarchistes, communistes, libertaires, autonomes, antifas, syndicalistes, mais aussi femmes et hommes cisgenres, c'est-à-dire qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, ou personnes queer, homosexuelles, non-binaires, trans et j'en oublie. Bref, tout un tas de gens différents qui d'ordinaire ne se fréquentent pas forcément et qui se sont retrouvés à cohabiter par milliers au village de l'eau. Et c'est cet effort et cette envie d'aller les unes et les uns vers les autres dont on va aujourd'hui parler. Et en intro, au retour sur cet extrait d'intervention des LFS, l'Outre Fight Sexism, déjà entendu, mais la pédagogion, c'est l'art de la répétigie, ou un truc comme ça.
Bienvenue au village de l'eau, merci d'être là. Nous, on est le groupe LFS, c'est l'Outre Fight Sexism, et on est le dispositif anti-violence sexiste et sexuelle qui va être actif tout le long du village. Voilà. On est basé à la Tente des Merveilles, dans la base soin, qui est entre les deux gros tas de bois. La manière que vous pouvez avoir de venir nous quérir, c'est de vous rendre à l'accueil du pôle soin, ou d'appeler le numéro d'urgence qui est inscrit un peu partout sur le site. C'est le numéro qu'on partage avec la veille qui va faire des maraudes sur site. C'est les personnes qui vont avoir des gilets jaunes et que vous pouvez venir voir si vous êtes témoin ou victime d'une situation problématique. Pour faire un petit speech plus spécifique sur les violences sexistes et sexuelles, attention, fun fact, c'est pas parce qu'on est dans un milieu militant de gauche qu'il ne se passe rien. On est une communauté, on est ensemble et on ne va pas externaliser la question du soin, mais bien la prendre en charge collectivement. L'idée, c'est qu'on fasse gaffe à nous, qu'on fasse gaffe à nos potes, qu'on fasse gaffe à nos comportements et qu'on fasse en sorte que les choses se passent bien pour toutes les personnes qui sont, d'une manière ou d'une autre, des potentielles victimes des oppressions systémiques. Tout ce qui comporte des situations de domination suivant l'identité de la personne, son genre, son orientation sexuelle, sa race, sa couleur de peau, son rapport à la classe, à l'argent. Et nous, ce qui va nous intéresser particulièrement dans notre team, c'est la question des violences sexistes et sexuelles et qui, du coup, implique fortement la question du genre. Par exemple, quand on est une personne qui n'est pas un homme cisgenre, on va avoir plus tendance à subir des violences sexistes et sexuelles. Être une personne cisgenre, ça veut dire qu'on se reconnaît dans le genre qui nous a été assigné à la naissance. Il y a plein de personnes pour qui ce n'est pas le cas. Des violences qui existent, c'est les violences transphobes. La manière la plus courante et la plus commune, c'est de mégenrer une personne, On parle d'une présomption de bienveillance qui est que des fois, on fait des erreurs, on peut se le faire remarquer et on peut changer. Et c'est ce qu'on a envie de porter, c'est d'être dans un truc de transformation de nos milieux pour aller vers toujours plus de soins. Du coup, nous, ce qu'on fait à LFS, c'est de proposer des créneaux d'écoute pour les personnes qui ont subi des agressions. Légitimez-vous sur ces questions, on est ensemble. Vous avez de l'énergie et vous avez du pouvoir et vous avez du discernement pour vous rendre compte quand il y a des trucs qui ne sont pas OK. Faites-vous confiance là-dessus, n'ayez pas peur d'intervenir. Vous en êtes capable. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide et de soutien, vous venez nous voir, on est là. Et on peut aussi en parler.
Sur le village de l'eau, nous sommes ici à la Tente des Merveilles, en la compagnie de Monique. Bonjour Monique.
Salut.
Tente des Merveilles, c'est la base soins déjà ?
Tout à fait, la Tente des Merveilles, c'est l'accueil de la base soins. Et on y retrouve tous les pôles de la base soins. Donc on a la veille, on a les camarades de LSF, les loutres qui combattent le sexisme. Donc c'est un dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qu'on peut raccourcir en VSS. Donc on a aussi le pôle médiation, le pôle soutien psy, pour la réduction des risques, les médics également, et le pôle psycho-émo pour l'après-manif.
Pour retrouver cet endroit, ça a été dit, hein, c'est entre les deux gros tas de bois qu'il y a sur le plateau du haut et on accède donc à cet espace que tu viens de décrire. On peut dire que c'est une safe zone.
Tout à fait, on essaye de mettre le soin en fait, au cœur de cet espace, ouais. Et de gérer les situations au mieux en fonction de nos protocoles en fait, et des besoins des personnes. Mm-hmm. Donc on a un espace chill où il y a des canapés, des fauteuils, s'il y a des personnes qui ont besoin d'être dans un espace cool. On a une flexurse aussi qui est un espace d'hyposensorialité, pareil pour les personnes qui ont besoin d'être au calme. Notre coin de chill, il sert aussi à accueillir les personnes qui vont être prises en charge pour des besoins d'écoute ou autre. Et voilà, et aussi, on essaie de prendre soin de nos bénévoles, bien sûr. Du coup, on a un coin collation pour nos bénévoles. Et voilà, au global, ouais, on essaie de mettre le soin au milieu de cet espace, parce que notre volonté aussi, c'est de remettre le soin au milieu des luttes. Prendre soin de nous, prendre soin des autres, c'est prendre soin de nos luttes et du coup de les faire perdurer, d'aller plus loin, plus fort ensemble.
Alors on a fait un petit sujet souriant avec des copaines qui fabriquaient des panneaux qui sont disséminés un petit peu partout, les panneaux qui indiquent « garde ton haut ». Et oui, les mexis, prenons conscience que nous arrogeons des privilèges, que nous imposons parfois la vision de nos corps à moitié dénudés à des gens qui ne l'ont pas forcément demandé, et donc que c'est en fait plus sympa de garder son haut, ce qui finalement, quand on y pense, tombe un petit peu sous le sens. Ce sujet était souriant, et les copaines l'ont fait de manière souriante et pédagogique. Là, je suis un peu plus grave, parce qu'une copaine a pris la parole hier, et malgré le fait que nous soyons a priori des gens de gauche, qui sommes peut-être parfois dans une prétention de déconstruction, bah, il se passe malgré tout, et bon, on est plusieurs milliers, donc sur plusieurs milliers, on n'est pas forcément tous déconstruits et déconstruites complètement, malgré le fait que nous soyons entre gens plutôt avec des choses en commun au niveau politique et philosophique, malgré tout, il peut quand même se passer de la merde, même dans nos espaces militants.
Ouais, on a beau se dire, on est carrément tous et toutes de gauche, bien sûr. De fait, on n'a pas forcément tous et toutes les mêmes cultures militantes, les mêmes façons de faire, les mêmes rapports aux autres, aux règles, au corps et tout ça. Donc ouais, de fait, il y a des choses à repréciser parce qu'il y a des comportements, des habitudes qui peuvent faire violence aux autres. Et du coup, ouais, de fait, les milieux militants ne sont pas exempts de violence, d'oppression systémique, malgré le fait qu'on, dans nos discours, on les dénonce, mais juste il faut s'assurer que notre parole et nos actes aillent en cohérence. Et du coup, de fait, il y a aussi des actes qu'on ne voit pas forcément. Et du coup, c'est pour ça qu'on est tous ensemble pour essayer d'avoir une attention à ces actes-là.
Une copaine des Loutres Fight Sexism l'a dit, que tout le monde peut se sentir légitime à intervenir quand il y a un truc pas safe, pas cool, malsain, que voilà, c'est pas forcément réservé à des meufs militantes ou je ne sais quel membre de commu, que tout le monde en fait est en droit et en devoir de veiller sur tout le monde. Et que quand on voit qu'il se passe des trucs pas cool, non seulement on a le droit, mais il faut. Alors c'est pas toujours facile, il y a des protocoles pour ça, enfin il y a la méthode des 5D.
Il faut, c'est le faux, c'est pas forcément le mot adéquat, mais... Ouais, en fait, nous, on se dit que le soin, c'est une responsabilité collective et du coup, on a tous et toutes une part à prendre là-dedans. C'est un peu pour ça qu'en fait, on a cette base soin, qu'on a de la veille, qu'on a différents pôles. C'est qu'en fait, nous, on ne veut pas externaliser le soin et on veut qu'en fait, on puisse s'en saisir collectivement et réavoir une culture commune là-dessus et voilà, partage des méthodes de faire qui permettent de militer de manière safe pour tout le monde en fait.
De fait, un peu partout sur le site, on voit cette petite affichette avec marqué « besoin de la veille » ou « veille » et un numéro de téléphone 07. C'est quoi la veille ?
Alors la veille, c'est une maraude bienveillante qui a lieu 24 heures sur 24 sur tout le site. L'idée, c'est d'être les yeux de la base soins. Parce que du coup, tous les pôles de la base soins sont au pôle soins. Et cette maraude-là va permettre de faire remonter les situations où on a besoin de faire intervenir les autres pôles du soin. Donc ça peut être LSF que tu citais tout à l'heure, ça peut être la médiation, ça peut être potentiellement les médics. Bref, ça peut être toute la base soins. Et du coup, on a des veilleurs et des veilleuses qui maraudent sur site, donc qui patrouillent sur le site, enfin qui se baladent sur le site 24 heures sur 24 par binôme, avec des toquis du coup qui sont en lien avec l'attente des merveilles. Pour faire remonter toutes ces situations, l'idée c'est vraiment d'être une présence bienveillante, de rappeler que le soin est l'affaire de tous. En fait, on a un gros besoin de bénévoles parce que du coup, c'est une présence 24 heures sur 24, c'est des créneaux de 2 heures. Du coup, on a besoin de veilleurs et de veilleuses. Du coup, s'il y a des gens qui sont motivés de prendre des shifts de bénévolat là-dessus, ils sont clairement les bienvenus. On les inscrit, on les brief à l'attente des merveilles. Il y a tellement de créneaux à prendre qu'on peut choisir à peu près celui qu'on veut.
Alors, il ne s'agit pas d'être expert ou experte en arts martiaux ou quoi que ce soit, ce n'est pas une milice.
Pas du tout. Alors,
tu as dit bienveillante hein, tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que du coup, la veille, c'est un pôle soins généraliste. Du coup, on n'a pas du tout la prétention de connaître tous les domaines du soin. Effectivement, on n'est pas là pour faire la bagarre. Nous, on vise vraiment la justice réparatrice, la désescalade s'il y a des conflits. Mais la veille n'intervient pas en fait, sur ces sujets-là. Et renvoie vers les pôles qui sont spécialisés. Donc, par exemple, s'il y a un conflit, on peut renvoyer vers la médiation. Eux et elles ont des outils en fait, de désescalade, de gestion du conflit, et pour gérer ça au mieux. Ce qu'on se dit, c'est qu'on ne peut pas rajouter de la violence à la violence. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ben, enfin, on ne va pas aller chercher la personne pour la taper, pour rajouter de la violence, créer des situations encore plus conflictuelles. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une attention collective aux soins, encore une fois, une bienveillance générale. On fait attention à ça.
On en revient à cet appel à bénévoles. Pour la veille, il s'agit donc d'être les yeux, les oreilles, enfin d'être là quoi.
Tout à fait, ouais, d'être là. Venez parce que ça va être incroyable, vous allez vous balader dans tout le site, vous allez être en lien avec les participants et participantes du village de l'eau. Au global, c'est plutôt des interactions super chouettes qu'on a avec les gens parce que les gens se rendent compte en fait que c'est un taf important à faire. Et du coup, tout le monde est content et contente de la présence de la veille. Et puis, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on essaye de prendre soin de nos bénévoles. Du coup, on vous met bien quand vous prenez des créneaux de veille. Donc n'hésitez pas à venir, c'est vraiment trop cool.
Et si par malheur on est en galère, en situation malaisante ou pas terrible sur site, est-ce qu'on peut reconnaître les personnes de la veille ? Est-ce qu'il y a un signe distinctif ?
Ouais, carrément. Alors les veilleurs et les veilleuses ont un brassard jaune. Alors soit ça peut être noué sur la tête, au bras, à la taille, comme elles veulent. Et si vous ne voyez pas de veilleurs et de veilleuses dans votre entourage visuel, on a des numéros qui sont affichés vraiment partout sur le site, sur les toilettes, à la cantine, aux différents stands. Donc n'hésitez pas à l'appeler et ça nous permet aussi de prendre en charge les situations via ce numéro de téléphone.
Si on veut être veilleur ou veilleuse, on fait comment ? J'ai vu un monsieur qui est venu se proposer, je crois que c'était pour ça, pour constituer, j'ai entendu même un trinôme. On se déplace tout simplement à l'attente des merveilles ?
Ouais, carrément. Alors du coup, on se présente à l'accueil de l'attente des merveilles et on choisit le créneau de veille qu'on veut prendre. Avant de partir en maraude, du coup, il y a un brief qui est donné, qui permet un peu d'avoir les clés de comment on fait, comment on utilise le toki, la posture à avoir. On rappelle un peu les bases de la posture qu'on veut transmettre avec cette base soin. Puis voilà, ça se fait bien parce que globalement, on est tous et toutes sur une même longueur d'onde, on veut tous et toutes bien faire et on s'en rend bien compte. Et du coup, tout le monde fait pour le mieux. Globalement, ça fonctionne très bien en fait. Les gens, quand on dit de faire attention aux autres, globalement, on sait faire.
On le redit une dernière fois, si quelque chose ne va pas, ne pas hésiter à venir à l'attente des merveilles.
Ouais, n'importe quel problème que ce soit, on est là pour ça, on a vraiment des mandats pour gérer ça. Il y a des personnes qui sont formées, qui sont spécialisées pour gérer les violences sexistes et sexuelles notamment. Du coup, il ne faut vraiment pas hésiter, on est là pour ça. Et même, ça nous fait plaisir en fait d'intervenir, non pas que ça nous fait plaisir qu'il y ait ces situations, mais ça nous fait plaisir d'aider les personnes qui en ont besoin. Et on est vraiment là pour ça, donc il ne faut vraiment pas hésiter.
Merci beaucoup.
Merci à toi, et merci à vous, et bon village de l'eau, Nobasaran.
Prendre soin des autres, c'est sur le village de l'eau et c'est aussi en manif. Le soin, c'est par exemple en amont de la manif, former les gens à des techniques pour défiler ensemble de façon cohérente. Le soin, c'est aussi une legal team qui t'explique tes droits en cas d'interpellation. Le soin en manif, ça peut être les médics, ces infirmières et infirmiers volants, ou des gens masqués qui donnent des consignes et conseils par haut-parleur, ou qui distribue du gâteau pour le goûter ou des sandwichs préparés au camp. Le soin, ça peut aussi être les fanfares qui apportent du soutien psychologique au cortège. Prendre soin des autres, ça peut aussi être du soutien psy ambulant. Exemple avec la manif en campagne du vendredi 19 juillet, celle où la gendarmerie a mis le feu aux champs pour en chasser près de 6500 manifestantes et manifestants.
Le fleuve humain des villageois et villageoises rejoint par des manifestants, manifestantes, a quitté le pré, le pique-nique, et on marche de manière déterminée avec ce gros insecte de métal qui est en train de nous survoler. Et dans ce cortège, deux personnes avec des dossards marqués « soutien psy ». Ah ben si, non merci, au soulèvement de la terre, qu'est-ce qu'ils sont prévenants et qu'est-ce qu'ils sont dans le Caire ? Bonjour N.
Oui, bonjour.
Bonjour Morgane.
Salut.
Le Caire n'est donc pas une légende, un mythe ou un argument de vente pour méthode de développement personnel. En fait, vous en faites, vous soutien psy, je suppose que c'est ça ?
Exactement, c'est vraiment important de repolitiser le soin, le prendre soin, que ça puisse être présent dans les luttes. Comme tout le monde a pu le voir, il y a vraiment une base de soins qui a été mise en place sur tout le village de l'eau, avec plein de dispositifs, de la veille aux pratiques d'anti-violence sexiste et sexuelle, à la médiation, les médics, c'est la tente des merveilles. Et à cet endroit-là, bah, du coup, il y a aussi notre pôle, le pôle de soutien psy, qui est constitué de plein de collectifs de soutien psy militants qui ont rejoint la mobilisation. Et voilà, et on s'est réparti un petit peu les missions pendant toute la semaine. C'est une chouette aventure.
Non seulement vous êtes à la tente des merveilles et au village de l'eau, mais vous voilà ici cheminant avec, je ne sais pas combien on est, hein, des centaines, des milliers peut-être, non ?
6000, 7000 je crois, tout à l'heure.
Et donc vous voilà aussi soutien psy dans le cortège.
C'est ça. L'idée c'est aussi de visibiliser que c'est un enjeu, qu'il n'y a pas que les médics, on est habitué à les voir et on en connaît la nécessité. L'idée c'est aussi de visibiliser que l'enjeu de la santé psy en manif elle est importante et je pense que c'est quelque chose qui se construit de mobilisation en mobilisation aussi, la sensibilisation au traumatisme, etc. Il y a des formations qui ont été aussi données sur le psychotrauma, sur le village de l'eau, par des camarades pour aussi sensibiliser les gens, que tout le monde puisse avoir des repères. Il y a quelqu'un qui nous amène de l'eau qui se fait applaudir, un riverain.
Ouais, c'est chouette.
Ouais, c'est très chouette. Ouais.
En fait, je boirais bien un verre d'eau.
Merci.
Mais ça, c'est la gourde.
On peut vous donner une gourde ?
Ah, c'était très chouette. Donc voilà, ce qui vient de se passer, la conversation s'est interrompue parce qu'un gentil monsieur était au portail de son pavillon en train de proposer de l'eau aux manifestants qui passaient. J'en ai profité pour en boire une grande gorgée. Je suppose que l'expérience de l'an dernier de Sainte-Soline 2, 25 mars 2023, a été déterminante dans votre réflexion sur le soutien psy nécessaire. Tu parlais de psychotrauma aussi.
C'est sûr. Pour ma part, moi, j'y ai pas participé, mais en fait, je pense que ça a aussi rayonné nationalement, en fait, parce qu'il y a de la ressource qui a été produite et même des choses qui ont été mise en application et sur d'autres luttes aussi en France, et c'est quelque chose qui se construit aussi de plus en plus avec des coordinations entre des collectifs de psy militants engagés, etc. En France, qui du coup se parlent, et de ce genre de mobilisation, c'est l'occasion aussi du coup de mettre en commun des pratiques, de les diffuser. C'est sûr que la violence de ce qui s'est passé l'année dernière a sensibilisé beaucoup de monde parce qu'on a tous connu des gens qui autour de nous y étaient, ou on y était nous-mêmes, qui sont revenus choqués, etc. Et il a fallu prendre soin de ces gens. Moi j'habite à des centaines de kilomètres d'ici et il y a eu des propositions de faire en place des débriefs, etc. Enfin, c'est un enjeu qui est de plus en plus visible et c'est aussi un enjeu de durabilité pour pouvoir continuer à lutter.
Il y a marqué soutien psy, ça veut dire qu'en vrai, vous êtes vraiment des psys, vous êtes diplômés de ça. Alors on pourrait gloser beaucoup sur la valeur du diplôme, etc., mais vous êtes des professionnels.
C'est pas un critère. Il y en a oui, il y en a non, c'est pas un critère, comme chez les médics.
Est-ce qu'on s'improvise soutien psy comme ça ?
C'est compliqué de s'improviser, en tout cas. Aujourd'hui, il y a plein de collectifs de soutien psy militants qui se montent dans différentes régions, notamment. Et chaque collectif a un peu ses principes de cooptation par réseau de confiance. Il peut y avoir que des psychologues diplômés et d'autres. Il peut y avoir des professionnels du soin, mais aussi des militants, des militantes qui ont de l'expérience, qui se sont auto-formés à la pratique de l'écoute, de l'entraide et du soin. Et donc voilà, en tout cas, il y a quand même une attention qui est donnée à la cooptation pour pouvoir être en personne de confiance et en même temps, surtout, faire en sorte que les enjeux de soins, de soutien psycho-émotionnel puissent être largement diffusés et qu'on se le réapproprie collectivement. L'idée, c'est pas qu'il y ait des groupes de spécialistes d'un côté qui soient experts, mais qu'on puisse chacun, chacune, retrouver confiance aussi dans nos capacités à prendre soin les uns des autres.
Le fait que vous soyez là et repérable avec donc ce morceau de tissu avec marqué soutien psy, ça veut dire qu'on peut venir, j'allais dire vous consulter, on peut venir discuter avec vous au cœur du cortège, dans la manif, là, en marchant, comme je suis en train de le faire?
Bah, je pense qu'en fait, c'est bien de distinguer les différentes temporalités dans lesquelles on se soucie de la santé, etc. Là, on est plus sur une approche plus urgente, sur des personnes qui seraient vraiment dans des états d'angoisse, où c'est difficile, ou en tout cas, il y a besoin d'aide sur le plan psy, ou de rassurer des personnes, etc. Et du coup, on a tout un tas de techniques, d'outils, de choses dans notre sac à dos, de bonbons et autres choses pour réconforter, pour apporter de la contenance, etc. Mais voilà, le but, enfin, on ne va pas travailler des choses très profondes aujourd'hui dans le cortège. Et aussi, comme on disait, c'est quelque chose qui est en train de se construire, donc on n'est vraiment pas des milliers des cents. On ne pourra pas pallier peut-être à tout non plus, c'est sûr. C'est pour ça que c'est déjà un enjeu d'apparaître. Mais du coup, plus pour du temps de conversation, avec plus le temps, en fait, il faut être en sécurité pour avoir le temps de parler de soi, etc. Et là, ce n'est pas le contexte maintenant, quoi. Ça, c'est possible, par exemple, au village.
Les pratiques des médics qui sont installées depuis plusieurs années dans les manifestations, il y a plein de médics qui sont à l'aise et formés à pouvoir accueillir des situations de stress, d'angoisse, voire d'attaques de panique, voilà, de personnes qui sont bouleversées pendant la manif. Du coup, il y a plein de médics qui sont déjà formés à ça. Voilà, nous, on a pu discuter avec pas mal de monde et il y avait juste l'idée d'être certaines personnes en complément des médics, plus spécifiques sur du soutien psy, pour si jamais les médics ont besoin de se concentrer sur du soin vraiment somatique, ben, qu'on puisse être en relais si besoin.
Et du coup, est-ce que des gens à la Tente des Merveilles sont venus vous voir parce qu'ils appréhendaient les manifs de vendredi, samedi? Je vous avoue que ça a été mon cas, bon, ça ne m'a pas empêché de dormir, mais est-ce qu'on est venu vous consulter à la Tente des Merveilles pour vous dire ouais, ça m'angoisse d'aller faire les manifs?
Alors moi, j'ai pas rencontré de personne, mais oui, c'est des retours qu'on a eu par les camarades qui faisaient des créneaux là-bas, que c'était ça aussi l'enjeu, en fait, de proposer des temps d'écoute aussi en amont. Parce que voilà, comme on disait l'année dernière ou les années d'avant, où d'autres manifestations ont pu laisser des souvenirs douloureux qui sont réavivés dans des contextes comme cela. Et c'est aussi l'enjeu de pouvoir continuer à lutter, etc., comme je disais tout à l'heure. Donc oui, c'est arrivé qu'il y ait des personnes qui viennent. Et c'est pour ça aussi que ça nous conforte dans la nécessité et la pertinence d'ouvrir ces espaces-là.
Forcément, nos ressources, elles ne sont pas illimitées. Et il y a vraiment l'idée de faire le pari sur la capacité de chacun, chacune, à pouvoir prendre soin de ses binômes, de son groupe affinitaire. Et c'est pour ça qu'avant les actions, y a un peu d'écoute en individuel qui a pu être proposée. Et notamment pour les bénévoles qui sont pas mal engagés depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il y avait surtout l'idée, avant la manif, de pouvoir faire de la formation pour rendre les personnes un peu plus autonomes sur ces questions-là, avec des formations au psychotrauma, au débrief, les formations au groupe affinitaire qui permettent d'aller en manif avec des personnes de confiance avec qui on partage un peu la même envie d'implication au niveau physique et juridique. Sur le post-action, il y a des temps d'écoute qui sont proposés. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir à la Tente des Merveilles, à l'espace de soutien psy. C'est bien sûr des temps de soutien en toute confidentialité avec des personnes militants, militantes, qui n'individualisent pas ou qui on essaye de questionner la tendance systémique à individualiser la souffrance et à réduire le mal-être à une question personnelle. Alors qu'on vit dans un système qui nous exploite, un système d'oppression qui malmène autant l'humain que le non-humain.
Pour illustrer ce qu'on veut dire en disant repolitiser la psychologie, c'est aussi, en fait, c'est pour ça, je pense qu'il y a des camarades qui font des formations psychotrauma, des formations débrief, etc., que ça puisse être un enjeu saisi collectivement, pas pathologisé en disant je pense que tu as tel trouble, je pense qu'il te faut tel traitement, telle thérapie, etc. C'est pas du tout ça, mais que collectivement on reprenne en main ces enjeux. Et en fait, la plupart des réponses, elles sont collectives et sociales et partagées. Et elles se font déjà assez spontanément, tout ce qui est débriefing, à chaud de l'action, etc. C'est des choses qui sont hyper importantes pour remettre ses idées dans l'ordre, dans une journée floue, chaotique qu'on a pu vivre. Et en fait, ça, on le fait déjà avec ses amis. Donc, c'est aussi se redonner confiance, ouvrir la parole là-dessus, mais pas du tout de faire de la question psy quelque chose qui est entre les mains des experts et les autres, ils touchent pas. C'est vraiment l'inverse. C'est à ce titre-là aussi, il y a plein de gens à qui on va pas du tout parler aujourd'hui, mais d'avoir un truc soutien psy en manif, ça pose comme un sujet, quoi.
Bonne manifestation à vous, les amis.
Merci à toi.
J'espère ne pas avoir à venir vous voir à la Tente des Merveilles dans le week-end.
On espère aussi qu'il n'y aura pas besoin, mais tu sais que tu peux.
Entre les méga vaccines et leurs protéines, si t'as besoin de pas, nous on est là.
Anecdote personnelle sur le soin et le care. Après cette manif du vendredi dans les Champs, une autre grosse manif a eu lieu le lendemain à La Rochelle, samedi 20 juillet 2024. Manif au cours de laquelle votre serviteur et des centaines d'autres personnes ont été gazées.
On continue à avancer les petits potes, c'est super. Si on peut éviter d'augmenter le niveau de tension, c'est top. Allez les potes, on garde les yeux en l'air.
Même si étouffé, aveuglé, acculé à un mur, j'ai eu la trouille, je ne me suis jamais senti seul. Je suis resté une goutte de ce fleuve humain ordonné et cohérent. Dans ce nuage de gaz aveuglant et asphyxiant, personne n'a bousculé personne. Tout le monde est resté calme. J'ai réussi à me réfugier avec d'autres dans un local poubelle où j'ai pu cracher et pleurer la lacrymo. Et très vite, deux personnes sont apparues pour me soigner. L'une d'entre elles m'a donné une fiole de sérum physiologique pour soulager mes yeux. L'autre m'a aspergé le visage de Malox pour dissiper l'irritation de la peau due au gaz. Merci à ces deux copaines d'avoir pris soin de moi, de nous. Merci et bravo à tous. De retour au village de l'eau à Saint-Martin-les-Mels, on se retrouve à la ferme de la Génellerie à discuter assis sur des bottes de paille avec Philippe, un historique de bassine non merci. Alors voilà deux hommes blancs, quinca et sexagénaire, a priori cisgenre, ben, du moins jusqu'à présent, et tous les deux très heureux de surfer sur leur vague de wokisme joyeusement révolutionnaire. Le village aurait aussi pu s'appeler la commune de l'eau. Bonjour Philippe.
Salut, bonjour.
Tu étais ce matin à cette conférence de presse représentant le collectif Bassine Non Merci.
Mais carrément, c'est moi qui me suis retrouvé à présenter le collectif Bassine Non Merci alors que je suis quand même pas vraiment en ce moment légitime pour le faire. J'ai passé beaucoup de temps dans ce collectif, mais j'ai pris du recul. Je suis quand même là parce que c'est des amis, des copains, et c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin d'un coup de main. Il leur faut des gens pour organiser un truc pareil. Donc moi, je suis là parce que on me connaît, je connais plein de gens. Je suis un facilitateur en fait sur ce village et on m'a donné la responsabilité d'être la personne un peu référente sur la ferme, la zone grise. Faire en sorte que ce lieu soit safe, qu'il n'y ait pas d'intrusion. J'ai été invité à cette conférence de presse. Pourquoi ? Parce que souvent on m'invite pour introduire des soirées, pour peut-être parce que je l'ai déjà fait au niveau de BNM, dans des soirées un peu conflictuelles. J'ai peut-être un peu cette capacité un peu des fois à faire baisser la tension, à... Mon âge compte, j'ai 67 ans bientôt.
Ah, ça conserve le gauchisme. Hein.
C'est sympa de me dire ça. Mais ça me permet, tu vois, parce qu'on a quand même pas mal confronté dans nos réunions publiques, souvent avec des gens plutôt de cet âge-là, les agriculteurs quadras et tout ça, on ne les voit pas, ceux-là. Mais ceux qu'ils envoient, c'est les très jeunes. Mais après, c'est plutôt des gens de mon âge. Ou alors inversement, les gens de BNM plus jeunes, quelquefois, se sentent pas facile de prendre la parole, se retrouver confrontés à des gens comme ça, aussi âgés, qui pourraient être ses parents, puis qui ont une telle expérience et tout ça. Du coup, on me dit, viens, on prépare la conférence de presse. J'y suis allé. Et puis à un moment donné, je m'embêtais vraiment parce que ils sont trop bons. Tous ces gens-là de BNM qui bossent là-dessus, ces jeunes filles, ces jeunes hommes, ils sont trop bons. Moi, je suis complètement off par rapport à ça. Sauf que j'ai une obsession, c'est celle de ne pas faire de ce village de l'eau un village indien, dans le sens d'un lieu de confort, pas connecté sur le monde qui nous entoure. Mais c'est sûr, on se sent bien, mais on est d'entre soi, quoi.
Tu disais, voilà, cet endroit, on l'a baptisé le village de l'eau, mais il aurait pu porter plein d'autres noms.
Ouais, moi, en fait, c'est quelque chose que je cogite depuis quelques temps, et notamment parce que le maire de Mel, vraiment, il a été attaqué de toutes parts, et pour justifier sa position là, d'avoir accueilli à Mel ce village de l'eau, il a beaucoup parlé de dialogue, de rencontres, d'échanges. Puis bon, il se trouve que le maire de Mel, c'est quelqu'un maintenant que j'ai appris à connaître, on fait le même métier au fond. Je suis socio-cul, j'ai fait mes formations dans les années 70, je suis issu de l'éduc pop, j'ai fait ce métier pour changer le monde, moi. Donc voilà, je suis issu de ça. J'en ai fait un métier, en fait. C'est trop la classe d'avoir envie d'être sur l'espace public et d'aller brasser cet espace, d'aller foutre le bordel, parce que je pense que c'est dans ça qu'il se passe des choses, parce que mes ennemis, c'était les comités des fêtes. Les vieux, en fait, les vieilles histoires, les conservateurs et tout ça, de code. Et moi, je voulais bousculer tout ça. Ça me construit tout ça. Et du coup, j'ai fait ce métier. Et donc là, je continue à le faire, en fait. Le maire, là, je sais, il est socio-cul, lui aussi. Hein. Il croit au dialogue, il croit à l'échange. C'est pas possible de faire autrement. Il n'est pas question de créer du consensus ou d'être consensuel. C'est pas ça. Moi, je suis persuadé que le système agricole aujourd'hui, c'est de la merde. Je m'attaque au système, je ne vais pas m'attaquer à l'agri, c'est pas possible. Des gros aussi quand même. Hein. Donc, la question de la flotte, ça touche la démocratie de l'eau. On a un problème de démocratie autour de l'eau. En fait, qui décide de la gestion de l'eau? Si, le citoyen, où est-ce qu'on le trouve, le citoyen? On le trouve nulle part. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une profession qui s'est accaparée tous les espaces de pouvoir et de décision sur la question de la flotte, et particulièrement les agriculteurs.
Les exploitants agricoles, on va dire.
Tu as raison, les exploitants agricoles.
Voilà. Et cette minorité qui est le fer de lance de l'agro-industrie, avec ce syndicat qui est la FNSEA, qui vise à la disparition du monde paysan. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait quelques grosses fermes-usines, tout ça main dans la main avec le lobby du béton. C'est de cela dont on ne parle pas des gens et de nos amis de la Confédération paysanne.
Absolument, on parle de la FNSEA. D'ailleurs, je suis allé voir qu'est-ce qui fondait ce syndicat, et quand on regarde dessous, c'est marqué, c'est une fédération nationale, FNSEA, de défense des exploitants agricoles, mais aussi de la défense de la ruralité, ce qui en partie explique leur impact, et que la Confédération paysanne elle rame, parce que la Confédération paysanne, le monde rural, regarde ce syndicat comme un syndicat de gauchistes, voire urbain, pas forcément du monde agricole, enfin de la ruralité. C'est des gens qui s'inscrivent ailleurs. Et la FNSEA, ça date de la sortie de la guerre. Voilà, on ne remet pas en cause un truc comme ça. Mais il faut quand même se souvenir que pour les élections professionnelles, la gestion des chambres agricoles, seuls 52% des exploitants agricoles votent. Hein. Après, c'est un principe, comme pour les conseils municipaux, si tu as 50% plus une voix, c'est le jackpot, quoi. Donc c'est un peu ça le problème. Eux, ils ont le jackpot, ils font tout ce qu'il faut pour ça. Donc effectivement, il s'agit bien d'exploitants agricoles qui représentent en plus les irrigants, je crois, à peine 5% du monde agricole. Et je me suis souvenu que la démocratie de l'eau, toutes les organisations qui prennent les décisions, alors évidemment, il y a l'agence de l'eau, mais elle, c'est la banque. Après, il y a ce qu'on appelle les comités de bassin, le gros comité de bassin. Ce qui nous concerne, c'est Loire-Bretagne. Mais en fait, on retrouve de moins en moins dans le monde rural de maires agriculteurs. Sociologiquement, avant, ils étaient tous présents comme maires. Aujourd'hui, ils le sont moins en moins. Par contre, quand il y a un conseil municipal se réunit la première fois, la chose qu'on fait, c'est de décider qui va être dans tel syndicat, dans telle organisation institutionnelle. Eh bien, ils ne se trompent pas. Ils vont dans les bons endroits. Donc après, on les retrouve dans le comité de bassin, dans les clés, les commissions locales de l'eau, etc. Et le citoyen, on le trouve nulle part. Il est off, complet.
Pourtant, il boit de l'eau, le citoyen.
Il boit de l'eau, il paye l'eau. En fait, on s'est intéressé à l'eau en 1962 ou 64, je crois, avec la loi de l'eau. On s'y est intéressé un peu grâce aux Allemands, d'ailleurs, parce qu'eux, ils sont meilleurs que nous sur cette question-là. Et en fait, l'État qui nous protège, on est d'accord, un État, c'est là pour nous protéger, hein, Darmanin, tu vois. Et donc, cet État qui nous protège, il s'est dit, attention, l'eau, on la salit, on peut la polluer. Il y a une prise de conscience que l'eau, il fallait quand même prendre soin. Donc on a fait une loi de l'eau, etc. Puis c'est de là qu'après, il y a les créations de l'agence de l'eau, tout ça, et toute l'organisation démocratique qui est devenue une usine à gaz. C'est hyper complexe. Et nous, là, citoyens, j'y arrive, là, on est dans une phase où l'eau, tout d'un coup, on prend conscience qu'elle perd en qualité et en quantité. Donc,
attention, on commence à s'y intéresser et le citoyen s'y intéresse. Une organisation comme Bassine Non Merci, ce sont des citoyens qui veulent faire valoir que cette eau, elle a un usage partagé. Ce ne peut pas être que les agris qui décident. D'où l'idée, pourquoi on a appelé ça le village de l'eau? On aurait pu appeler ça la commune de l'eau. Car
ah,
en fait,
nous y voilà.
Voilà, la commune de l'eau, je trouve le nom est pertinent. Il fait référence au commun, l'eau. Mais il fait aussi référence à une forme d'organisation, reprendre en fait le sens premier des mots. Donc la commune qui vient après la Révolution française. La commune est la première forme d'institution émancipée des communautés seigneuriales et des paroisses de l'Ancien Régime. On parle d'émancipation. Elle rompt avec le passé afin de bâtir une société nouvelle. Donc ça, c'est la commune au sens communal, au sens organisation institutionnelle de la cité. Hein. Mais il y a aussi l'autre commune, c'est la commune de Paris, qui a duré quoi, 2 mois et 10 jours. Cette commune, il y avait quand même un encerclement militaire, hein, les Versaillais, il y avait du moyen. Hein. Et ben là, c'est un peu pareil, hein. On est entouré de militaires avec du moyen, on nous met la pression. C'est qu'on représente quand même un danger. Pour qu'on nous mette autant de pression, c'est qu'on représente un danger. Et ce qui est intéressant dans la commune de Paris, c'était aussi que pendant cette période de 2 mois et quelques jours, en fait, ils ont trouvé des formes d'organisation. Et ben nous aussi, on trouve des formes d'organisation. Donc c'est un lieu de formation citoyenne. Donc commune me paraît totalement appropriée, car en fait, on crée cette commune aussi pour se former, pour monter en compétences, pour revendiquer en tant que citoyen une place dans la démocratie de l'eau. C'est dans ce sens-là que je pensais le mot commune. Et puis moi, j'ai vu ici, tu vois, il y a plein de jeunes, tu sais bien. Et l'autre jour, il y avait une jeune, là, quand il y a eu les propos de la coordination rurale qui allait éventuellement venir renforcer les forces de police pour nous attaquer, les termes sont forts, eh bien, elle ne sait pas ce que c'est que la coordination rurale. Alors là, je me suis dit, waouh, c'est hyper important qu'on ait des endroits comme ça de formation, puisque j'espère que quand elle va partir d'ici, elle en saura un peu plus sur le monde agricole. Voilà pourquoi je parlais de commune.
Les méga bassines, les fermes usines de cette société-là, on n'en veut pas.
Les méga bassines, les fermes usines de cette société-là, on n'en veut pas. Les méga bassines, les fermes usines de cette société-là.
Je voudrais revenir sur ce que tu disais, hein, ce serait dommage de faire un village d'Indiens qui pensent tous la même chose. Ouais. Je pense qu'il y a relativement peu de gens de droite sur ce village de l'eau, peu d'amoureux et d'amoureuses du système capitaliste, ce qui effectivement peut de loin donner une impression d'entre-soi. Moi, il me semble voir malgré tout des mosaïques d'Indiens. On est peut-être des Indiens, mais il y a pas mal de tribus différentes quand même. Il y a beaucoup de communautés et de gens de tous horizons en fait qui se retrouvent ici. Tout le monde fait du chemin les uns vers les unes et les unes vers les autres. On a pu aussi le voir et le constater pendant le dernier mouvement social contre la réforme des retraites de 2023, où avec grand plaisir, on a été nombreux, nombreuses à voir les personnes queer. En tout cas, c'était le cas dans ma ville, très présente sur le mouvement. Et ici, j'ai une impression que toutes ces tribus d'Indiens là, font un effort pour aller les unes vers les autres. Quand il m'est arrivé de me balader sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je t'avoue que parfois les ZADistes, je les ai trouvés un peu rugueux et rugueuses, surtout quand ils voient un micro. Je ne leur donnerais pas tort de se méfier des médias, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un gros effort, parce que il y a quand même une dynamique qui est partie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui s'est insufflée dans ce village de l'eau. Il y a même des personnes qu'on retrouve. Et je crois que ces gens ont fait aussi beaucoup de chemin en se disant « Bon, notre stratégie justement d'Indien puriste de pensée politique. » Enfin, j'ai l'impression que ces gens de la ZAD qu'on peut retrouver ici ont fait un gros effort de changer de stratégie parce que rester entre nous n'est pas une solution. Est-ce que tu ressens ce truc-là ?
Oui, à deux endroits. Le premier endroit, c'est effectivement, il ne faut pas oublier que cette organisation... là autour des bassines depuis 2-3 ans maintenant, elle associe plusieurs organisations dont les soulèvements de la terre, BNM, mais aussi le syndicat de paysans ou le syndicat ouvrier Sud et la CGT. Donc en fait nous on parle de composition, on compose, c'est juste de dire que bah, chacun fait un pas vers l'autre, on ne cherche pas à faire consensus, mais on bouge les curseurs de jusqu'où on va mener l'action, qu'est-ce qu'on va faire. Les curseurs peuvent bouger, donc de fait ça se ressent. je pense qu'on s'est encore plus, depuis Sainte-Soline 2, rapproché. Il y a eu un effet, je pense. Mais effectivement, dans ce village d'Indiens, on est loin d'être tous pareils. Moi, j'ai 67 balais, sans déconner. Je me sens très vivant ici parce que, globalement, les mouvements féministes ont traversé les mouvements sociaux comme le nôtre. Mais là, moi, il m'est arrivé cette anecdote là, de Mint, tu vois. Je suis allé prendre une douche dans un espace Mint. Ceux qui entendent, là, ils vont se marrer. Je veux prendre cette douche sans savoir que c'était ce que ça voulait dire en fait. Et du coup, j'ai
une douche à la menthe.
Ouais, c'est ça. J'ai pensé à ça parce que je croyais que c'était écrit en anglais. Une jeune femme est rentrée. J'ai senti en fait, mais non, t'es pas dans le bon endroit. Il y a un truc qui va pas. T'es pas à ta place là. Il y a un truc. Ça, c'est pas facile. Je me suis senti voilà.
Si mint, ça veut pas dire menthe. Ça veut dire quoi?
Mint, c'est un acronyme. Ça veut dire meuf, intersexe, non binaire, trans.
Bon. C'était pas une douche pour mec cis.
Voilà, exactement. Bah maintenant, ça a été écrit dessous, hein, ça va être précisé. Profondément, j'ai été un peu dans un mode oh, putain, fais chier, ils auraient pu le dire. Et ça pouvait m'emmener sur des mauvaises routes.
Tu t'es senti exclu?
J'ai pu me sentir un peu exclu. Et, mais du coup, heureusement, j'ai une femme féministe. Quand je lui ai raconté ce truc-là...
Chérie, tu te rends compte, il y a des espaces en non-mixité?
Non, non, c'est pas du tout comme ça. Non, je lui ai parlé de ce que ça m'avait fait en fait. Bon, ok, elle le comprend, hein, bien sûr, mais elle me dit, mais au fond, c'est que dalle. Par rapport à ce que vivent les gens qui ont osé le revendiquer, cet espace. Et là, j'ai compris. Moi, dans ma position là, d'homme cis, bah, honnêtement, je ne suis pas en danger. Mais c'est surtout qu'il y a des gens qui vivent des situations d'exclusion, des situations « je ne suis pas à ma place », etc., depuis des années, et qui là, ils sont en train, grâce à notre village-là, le village est suffisamment sécur pour pouvoir le faire, et puis ben, de venir me bousculer. Ben, moi, je trouve ça super. Donc, au final, effectivement, c'est un village indien, mais comme tu l'as dit, c'est une mosaïque de gens. On n'est pas tous pareils, loin de là. Il y a tous les âges, il y a... tout un tas de communautés de gens, de communautés culturelles, etc., et sociales. Mais il n'empêche que quand même, moi, le rapport à l'extérieur m'intéresse parce qu'on a quand même une unité de pensée en termes anticapitalistes, de rapport au monde, etc. Je pense qu'on a quand même une unité de pensée et qu'il y a du danger de ne pas savoir ce qu'ils pensent à côté, voire de ne pas les rencontrer. Donc moi, ça m'intéresse qu'on puisse provoquer des espaces de rencontre.
Juste pour clore sur cette histoire de Mint, là, je sens chez toi une joie et une jubilation, en fait.
Maintenant, oui, je trouve ça chouette que je puisse encore être surpris, en fait. Et donc, c'est plutôt joyeux.
Donc, c'est la bonne nouvelle, on peut apprendre des trucs tout le temps jusqu'à la mort.
Ouais. C'est ça exactement ce que ça me fait. Et de me dire, ouais, mais moi, j'ai vécu ça, en fait. Ça veut dire que je suis vivant. T'imagines ? Je pourrais pas être devant une télé ou je sais pas quoi, regarder le monde à travers ce qu'on veut bien m'en faire passer. Je suis connecté avec des mouvements, des jeunes gens qui vivent des trucs que moi, j'ai au même âge, évidemment. Je pense peut-être que j'aurais aimé avoir 20 ans aujourd'hui sur plein de trucs. Hein. En tant que mec, honnêtement, moi, j'aurais aimé avoir 20 ans aujourd'hui en tant que mec. Parce que nous, putain, avoir 20 ans, il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, fallait être puissant, fallait être fort et tout. Et en fait, c'est pas mon truc. Et je pense qu'aujourd'hui, je trouverais des espaces où je pourrais manifester que c'est pas mon truc. Et puis je rencontrerais aussi des gens, on me dise, bah non, on n'attend pas de toi de la puissance. Ah ouais, ça, je pense que ça m'aurait fait le plus grand bien.
Ce village-là, de la Rochénard à Sainte-Soline 1, Sainte-Soline 2 et aujourd'hui, c'est jamais le même village non plus. Enfin, c'est en constante évolution. Il suffit juste de venir pour voir que l'ambiance n'est jamais la même. En fait, ça bouge.
Ah ouais, ça bouge énormément. Carrément, c'est sûr que ça, entre la Rochénard et aujourd'hui, du chemin de fait.
Juste en 2-3 ans.
Ouais, on est quelques-uns ici. On imagine que c'est très loin la Rochénard. En fait, c'est pas si loin que ça. On se dit, ouais, vache.
2022, hein, la Rochénard.
Ouais. Donc c'est que dalle, on est 2 ans après.
Il s'en est passé des choses. Hein,
il s'en est passé, ouais. Bon, il y a eu Sainte-Soline 2, c'est quand même... On est tous un peu trauma quand même par ce qui s'est passé là.
Est-ce que c'est pas le fait aussi d'avoir pris ensemble ces 5000 grenades? Moi, je t'avoue que j'étais un peu en retrait quand même, un peu trop près des quads, bref. Ouais. Est-ce que cette épreuve aussi n'a pas créé un besoin d'aller les uns vers les autres, de se renforcer, de s'unifier, de se rencontrer? Cette épreuve, elle nous aura un peu soudés aussi.
Ouais, ça, j'en suis persuadé. Après... on a appris à mettre des mots ensemble, des mots sur ce qui a été vécu à ce moment-là. Je repense à la soirée immédiate après Sunshine 2, donc le soir à Mel, là, on était sonnés, là, et du coup, on pouvait raconter des conneries.
T'as pensé des conneries à ce moment-là ?
J'étais pas à Sainte-Soline, puisque j'étais tellement dans l'organisation de Mel que, je, comme d'autres copains, on pouvait pas quitter Mel. On venait de faire un truc de dingue et organiser un truc pour accueillir Sainte-Soline. On vivait Sainte-Soline par téléphone, par truc interposé. Et après, on sépare les copains et les copines qui nous ont raconté ou pas ce qu'ils avaient vécu. On a pris progressivement l'ampleur du truc. Le truc de dingo. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est en fait de voir comment chez certaines personnes, ou dans les journaux surtout, et dans un certain monde agricole aussi, qui n'avaient aucune empathie, aucune compassion par rapport à, au fait qu'on a failli tuer des gens. Quoi. Et ben, ça, moi, j'ai été choqué de ça. Ouais.
Alors, ça a été légitimé par un discours médiatique dominant de « ces gens sont violents ». Pas d'empathie parce que il y a ces black blocs qui sont venus casser du flic, ce qui est inexact, et ensuite des gens prêts à en découdre sur les 30 000 manifestants de Sainte-Soline 2. Il n'y avait pas 30 000 personnes en train de jeter des trucs sur la maréchaussée. Hein. La maréchaussée a tiré la première.
Oui, oui, le film of investigation là, sur autopsie d'un carnage annoncé, il le montre bien. Puis surtout, il y a le témoignage de cette jeune fille, Alix, tous les parents de la Terre peuvent se retrouver comme parents de cette jeune fille, tu vois. Il y a eu Serge et Mickaël, attention, beaucoup de respect. Hein. Mais certains pourraient dire, ouais, mais bon, c'est un militant, machin et tout, mais cette jeune fille Alix qui va là-bas à 20 ans et qui se fait exploser la tronche alors qu'elle n'a même pas encore mis un pied sur le terrain, mais c'est carrément dégueulasse. À ce moment-là, tu te dis, tous les parents, s'ils voient ça à 20h dans des télés où ils regardent, ils pourraient se dire, mais Darmanin, c'est un assassin, il faut qu'il aille en prison. Moi, je pense ça. Ça pose la question de l'État. Et sa fonction première, un État, il est là pour nous protéger. On parle de protection sociale, mais pas que. Il est là pour nous protéger. Darmanin, il ne fait qu'attiser la haine, il défend un système économique, etc. Mais putain, il va loin quand même. Enfin, ce mec, j'ai beaucoup de détestation de cette personne, de ce qu'il représente en fait. Il est venu à Niort hier. Il est même passé au-dessus de nous, je pense, en hélicoptère. Il est venu et il a annoncé qu'il y aurait 4000 policiers et puis qu'il y aura plein de casseurs, que ça va être le bordel et la manifestation est interdite. Et voilà. Ça fait chier, quoi. Je crois que j'ai eu la nouvelle que la manifestation était interdite. On a besoin d'un gouvernement qui vienne nous redonner de la protection sociale, de la protection aussi. Alors c'est drôle de parler comme ça, mais le policier il est là pour nous protéger, il n'est pas là pour nous tirer dessus, et puis nous amener de la justice, voilà, enfin tout quoi. Ils sont boulot normalement. S'ils font pas ça, s'ils se passent pas là, putain, alors là on est peinard pour le Rassemblement National la prochaine fois, ils cartonnent. Parce que c'est que ça qui peut les arrêter. Il y a des gens, ce ne serait pas compliqué, je pense, qu'ils puissent penser différemment, voir le monde différemment, pour peu qu'on s'intéresse à eux, échanger avec eux, qu'on fasse des choses avec eux, leur montrer que d'autres mondes sont possibles, hein, ce fameux slogan du début du siècle. Là.
Quand tu as des interlocuteurs tristes qui te disent « oui, mais vous êtes violent », tu réponds quoi ?
La violence, elle est d'abord la violence policière, elle est d'abord la violence de l'État. C'est lui qui met ce niveau de violence, enfin, ça j'en suis persuadé. La preuve, c'est que quand il n'y a pas de flics, il n'y a pas de black bloc, hein, objectivement. Là, à Sainte-Soline, il y avait l'idée d'aller manifester notre désaccord de cette bassine, aller en faire le tour. Voilà, ils ont décidé d'une manière extrêmement violente de nous massacrer pour pas symboliquement qu'on aille mettre le pied dans la bassine.
Qui était même pas équipée de sa bâche, enfin non, elle était même pas finie cette bassine.
Elle avait rien.
C'était juste un trou quoi.
Ils ont défendu un trou, mais enfin qui derrière va être bâché, etc. Tu vois toute l'économie que ça amène, hein. C'est plein de fric tout ça. Faut la fabriquer la bâche. Hein. tu vois, ça fait bosser, ça fait gagner de l'argent à certains, tout ça. Et puis bah, pour ça, on est prêt à tuer des gens, et des jeunes, nos enfants, bah, vraiment.
Et on est bien d'accord, c'est bien la police qui a ouvert les hostilités.
Ça a été prouvé, t'as vu,
il y a les gendarmes.
Il y a le rapport de la Ligue des droits de l'homme avec tous ces observateurs qui ont écrit un dossier monumental. C'est une organisation indépendante, ils n'étaient pas... jugés partis sur cette histoire-là. Ils se sont donné les moyens, en tous les cas, d'observer, de prendre note et de témoigner. Bon, leur témoignage, il est accablant pour la police de Darmanin et pour l'État. D'ailleurs, les Black Blocs ou les Déter, je ne sais pas comment les appeler, à Sainte-Soline, j'ai souvenir avoir fait énormément de choses avec eux. C'était très nouveau pour moi. Tiens, on parlait de Mint, je peux parler de ça aussi. C'est-à-dire, tout d'un coup, on rencontre des gens masqués tout le temps. C'est pas dans ma culture, ça. Et puis, comme il fallait se faire à manger sous le chapiteau, là, on faisait des soupes. Moi, j'épluchais des carottes, des pommes de terre avec des gens masqués avec qui j'échangeais, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons. Parce que ce mouvement-là, c'est pas que des mecs, c'est pas masculin, dans le sens masculinisme, c'est pas du tout le cas. On a pris le temps de se rencontrer. Moi, je peux exprimer de voir des gens très conscientisés, politiquement extrêmement pertinents et conscientisés. Leur ennemi, il est clair, c'est effectivement le capitalisme. Des gens qui font profit en exploitant les autres. Et c'est leur cible. C'est pas le gendarme, leur cible. Ils visent le matériel. Jamais ils visent un policier. S'il y a un cocktail Molotov, ça peut arriver, mais il y en a toujours. Si on prend l'histoire... des luttes ouvrières. Moi, je viens de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Les gars, ils mettaient des boulons dans les sableuses. Là, le rapport de force, il était en l'autre sens, pour le coup. La violence, dans la lutte, elle a toujours été présente. Mais là, eux, ils tirent avec des armes de guerre, ils tirent à l'horizontale. Pour moi, ils étaient autorisés à tuer. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de Rémi Fraisse 2, mais honnêtement, on n'en était pas loin quand même. Enfin, en tous les cas... Serge, cette jeune fille Alix et Michael, les trois dont on parle, mais il y en a 200. Il y a plein de gens qui ne se sont pas... c'est des gens traumatisés. Il y a un avant et un après. Des gens mutilés, des gens... Enfin, c'est effroyable, en fait, cette histoire-là. Il y a ici des gens que j'ai rencontrés, des gens de mon âge qui ont pris cher aussi. Quand il y a un mec, là, il a mon âge, il a des acouphènes depuis, il a des pertes d'équilibre, ça a changé sa vie. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire et tout, à cause de ces putains de grenades assourdissantes, par exemple. Puis il y en a d'autres qui sont blessés dans leur chair à cause des grenades, des encerclements. D'autant plus quand elles sont tirées à la verticale, c'est dégueulasse. Les flashballs, là. On a discuté de la violence, parce que quand on a voulu aller rencontrer les élus, on a fait des assemblées générales, il y avait... une jeune femme qui disait, moi, la violence sur le matériel ne me gêne pas, je l'assume totalement. Par contre, la violence sur la personne, non, c'est pas possible pour moi. Mais sur le matériel, ouais, pour désarmer, oui, désarmer une bassine, sans problème, j'assume. Par contre, je n'assumerai pas d'aller tirer sur, faire mal à un agriculteur ou à un policier. Nous, on parle comme ça. J'aimerais bien savoir comment eux, ils parlent en face. Nous le savons que parmi les gendarmes qui étaient présents à Sainte-Soline, certains... certainement une minorité, mais ont été vraiment psychologiquement blessés.
Il y a eu des arrêts maladie.
On dit même peut-être même des burn-out à gendarmerie à cause de ça. Ou des jeunes gendarmes qui n'imaginaient pas que leur métier serait un truc pareil, quoi. Ils disent, mais attends, on n'est pas venu gendarme pour ça.
J'ai eu un peu ce sentiment-là en venant hier, mais je suis passé à travers un barrage de gendarmes. Mon sac a été fouillé par un jeune homme. Je pense que j'étais assez vieux pour être son géniteur. Ouais. Mais dans son attitude, enfin la chef avait le dos tourné là. Mais j'ai eu le sentiment que le gars, ça le faisait chier, enfin que ça le faisait chier. Je suis arrivé, j'ai fait une petite blague en me disant, bah si je vous vois là, c'est que je suis sur la bonne route. Ça les a fait marrer. Alors après, ils se sont raidis quand la chef est ressortie de derrière le fourgon et ils ont bombé un peu le torse et tout. Mais peut-être que je me trompe. J'ai eu le sentiment que là, ce jeune homme qui a fouillé mon sac, en fait, ça l'emmerdait. Évidemment, on n'a pas fait de philo, il n'était pas là pour ça et moi non plus. Et quand je suis reparti, il m'a dit, est-ce que vous avez une lampe torche sur votre téléphone portable? Parce qu'il fait sombre dans les champs, faut faire attention à ne pas vous blesser. Tu te dis, mec, ça te fait chier d'être là.
Ça peut arriver, mais... faut pas oublier quand même que dans la police et la gendarmerie, il y a un paquet de gens plutôt proches.
La moitié vote Front National.
Faut pas l'oublier ça. Mais c'est d'autant plus amplifié quand ils ont un ministre qui leur donne l'autorisation, quoi. Et là, moi, je l'ai bien senti avec ces barrages. Là, moi aussi, j'ai été bloqué. Je sais pas, on m'a empêché de passer en bagnole. Enfin, je t'en passe. Fouillé, tout ça. Mais J'ai rencontré, parce qu'on a des multiples barrages, ça nous permet de rencontrer une multitude de gendarmes et de policiers différents. Et
il y en a des très zélés aussi.
Il y en a des très zélés, ça que je voulais dire. Et qui se sentent d'autant plus autorisés que leur grand chef leur a dit « Allez-y, faites-les chier, parce qu'ils font chier sur leurs gars ici. Hein. » Ils ont bloqué les extincteurs, ils ont empêché il y a un copain qui a emmené une tente pour répondre à une commission de sécurité dans le camping bénévole, qui a été bloqué. On lui a pris le barnum qui devait emmener, etc. C'est que des conneries comme ça.
Il y a eu du matériel médical qui a été bloqué ici, ce qui fait que l'actuel ministre de l'Intérieur dit ces gens sont insécures, ils font de l'insécurité, mais en fait on ne donne pas, en tout cas on a entravé la démarche de rendre ce village de l'eau sûr.
Je crois que ça c'est la première fois qu'on le voit. Il y a une copine qui disait ça, elle dit ouais, là ils utilisent vraiment même les outils administratifs. Ils veulent nous bloquer sur notre propre organisation, déstabiliser sur notre propre organisation, nous obliger à amener de l'énergie sur des trucs qu'on ne devrait pas faire, parce qu'on les a réglés ces trucs-là. Mais comme ils nous empêchent d'amener le matos, ça nous met dans la merde, c'est leur truc. Ils ont des ordres comme ça. Bon, très honnêtement, le coup de que la manifestation soit interdite, alors en même temps, on va dire, mais t'es bisounours, mon vieux, évidemment qu'elle est interdite, mais non, j'aurais pu imaginer autre chose en cette période.
Au fait, on parlait de Darmanin, qui s'en va donc bientôt au moment où on se parle. J'ai, il y a peu de temps, co-signé une plainte pour mensonge contre le ministre de l'Intérieur, Darmanin. Je pense qu'on a été nombreuses à le faire. Tu sais ce que c'est devenu, ce truc-là ?
Non, je ne sais pas.
Darmanin a menti comme un arracheur de dents.
La commission, il a menti, oui. Donc, il y a une plainte qu'on a été nombreux à signer. Mais tu sais, c'est long. Je crois que c'est long, en fait. Puis en plus, un ministre de l'Intérieur, quoi, tu vois. Je sais pas. Si ça avait un peu avancé, on l'aurait su. Donc ça veut dire que ça n'a pas avancé. Mais la plainte a été déposée. Donc à un moment donné, elle sera traitée. On va l'avoir, lui. Hein. Un jour ou l'autre, ça va ressortir. Est-ce qu'il est jeune ? S'il fait attention à lui, il sera encore vivant. Et peut-être un jour, il passera en procès. Il sera condamné, il est en prison. Darmanin
ouais,
en prison.
Il aura un bracelet électronique en or.
J'en connais un comme ça, ouais.
Il était ministre de l'Intérieur aussi, et même président.
Et il a même été président. Pour notre ministre actuel, c'était un mentor un peu, hein, l'idée, ouais, je vais faire comme lui. Donc ils se sont même rencontrés, comment t'as fait, tout ça.
Pour en revenir à cette manifestation, donc au moment où on se parle, qu'on annonce interdite, la stratégie quand même me semble tout à fait étonnante, c'est La Rochelle, je crois, hein, le port de la Palice, et ça se justifie, puisque c'est par là qu'arrivent tous les pesticides et les saloperies qui polluent nos terres, notre eau et tout ça, et c'est par là aussi que s'en va ce maïs destiné à fabriquer des hamburgers à l'échelle de la planète. On comprend bien la symbolique du port de la Palice de La Rochelle. Tactiquement, c'est très étonnant, cette manifestation interdite.
C'est intéressant qu'on aille sur cet objectif-là, pour ce qu'il représente symboliquement. Après, moi, ça me rappelle quand on était parti de Niort pour aller à la bassine de Mosée, on était parti en bagnole aussi. On avait fait des convois en voiture. Why not ? Je veux dire, comme les agriques, leurs tracteurs nous allaient en bagnole. Ça peut être puissant d'aller à la Palice en bagnole. Faire du monde sur la route, ça va foutre un sacré bordel. Surtout là, en ce moment, on est quand même une période touristique importante dans le coin, là, du côté de La Rochelle. Je trouve que c'est une bonne idée. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Que... Voilà.
Et oui, ces deux manifestations de juillet 2024 se sont globalement bien passées. Comme vous le verrez avec la suite de cette série à télécharger sur notre site, polémiquesetlavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée, ce n'est qu'un combat, continuant le début. Vive la commune, no basaran.